Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. Je préfère vous prévenir. Notre émission aujourd'hui sera machiavélique, car c'est de Machiavel qu'il va être question avec mon invité Jacques Rigaud, qui vient de publier un ouvrage intitulé Le Prince au miroir des médias, Machiavel 1513-2007, ce qui fait tout de même 494 ans.
Il a vécu vieux.
Hein. Il a vécu très vieux. Bonjour Jacques Rigaud.
Bonjour.
Ce n'est pas la première fois que l'un de vos livres se penche sur la politique, la culture, la communication et les médias. Vous avez publié une dizaine d'ouvrages dont je rappellerai seulement quelques titres parce que toutes les références seront inscrites sur notre site internet. Débat pour la France de demain en 61, La culture pour vivre en 75, Libre culture en 90, Miroir des mots en 91, L'exception culturelle en 95 et Les deniers du rêve, essai sur l'avenir des politiques culturelles en 2001. Et ce ne sont que quelques-uns de vos titres qui ont en tout cas un rapport avec la culture. Bref, on comprend que vous êtes un observateur attentif et un analyste réputé depuis bientôt 30 ans, mais j'aurais peut-être pu dire 40 ans même peut-être, des rapports entre la politique, la culture et la communication. Vous avez été directeur de cabinet sous le président Pompidou et chargé de la construction du musée d'Orsay sous le président Giscard et vous avez été longtemps président de la radio RTL. Surtout, vous êtes un lecteur assidu de Machiavel. Alors, vous n'avez pas lu seulement Le Prince, vous avez lu un autre essai de Machiavel qui s'appelle Discours sur la première décade de Tite-Live, dont on parle beaucoup moins que du Prince.
Exactement. On a trop tendance à réduire Machiavel au Prince, qui est un ouvrage utilitaire qu'il avait écrit pour se faire bien voir de la famille des Médicis, laquelle a reçu cet ouvrage avec une très grande indifférence. Et c'est un ouvrage qui est destiné, c'est un ouvrage portatif, pour apprendre ou rappeler les recettes de la conquête du pouvoir, de son exercice et de sa conservation.
Voilà, s'y maintenir surtout.
Tandis que dans les discours sur la première décade de Tite-Live, Machiavel a une pensée beaucoup plus profonde, beaucoup plus personnel, inspiré de la République romaine, où il donne son idée, sa conception de l'État, du pouvoir et de l'exercice du pouvoir politique. Et c'est un ouvrage connu des spécialistes, qui est effectivement beaucoup moins populaire que Le Prince, mais beaucoup plus profond. Et qui, encore une fois, inscrit Machiavel dans l'histoire de la science politique, je dirais même aux origines de la science
politique. Un pionnier de la science politique,
oui,
écrivez-vous.
Car c'est le premier, à ma connaissance, qui réfléchit sur la politique en dehors de toute a priori philosophique ou théologique.
Oui, parce qu'à l'époque, évidemment, la théologie avait une influence énorme.
On avait une conception sacrée du pouvoir. Et d'ailleurs, indépendant même de la religion chrétienne, qui inscrit en effet le pouvoir dans le sacré, mais dans le monde antique, il y avait une sorte de déification du pouvoir. Tandis que Machiavel prend la politique comme un fait, comme il se serait occupé, dit-il, du commerce des grains ou d'autres choses.
Au fond, c'est un scientifique. Voilà, il regarde, il observe.
Un regard froid, dépourvu de toute considération morale ou philosophique sur le pouvoir. Et donc, on peut dire à cet égard qu'il est l'inventeur de la science politique en tant que telle.
Absolument. Rappelons simplement pour nos très jeunes auditeurs, Machiavel, donc début du XVIe siècle.
Il naît à la fin du XVe siècle.
Fin du XVe.
Car 1513 n'est pas sa date de naissance. C'est dans mon sous-titre que vous avez rappelé, 1513-2007, c'est un clin d'œil. Je vais vous faire une confidence. Le premier titre que j'avais trouvé pour ce livre, c'était machiavel.com. Mais le titre était pris et donc j'ai dû en changer et j'avais trouvé comme autre titre Machiavel 1513-2007. 1513 est la date de l'envoi au Médicis du prince.
Du prince, voilà,
2007,
de son récit.
C'est évidemment maintenant. Puis on a ajouté un titre plus littéraire, Le prince au miroir des médias. Donc il est né vers les années 1490. Il mourra dans les années 1530, donc il aura une vie assez courte. Une vie de fonctionnaire, d'agent de la République de Florence, mais un homme qui était au moins autant diplomate que fonctionnaire et technocrate, en quelque sorte.
Alors, vous faites remarquer, Jacques Rigaud, que c'est un homme, en tout cas, dont le nom est devenu un adjectif. Même deux adjectifs pour lui, puisqu'on dit machiavélien et machiavélique.
Et machiavélisme.
Et machiavélisme.
Ce n'est pas un adjectif, c'est un substantif.
Un substantif.
Oui, c'est un nom qui a été décliné, et décliné très tôt.
Très tôt, on a parlé de ça.
Car dès le XVIe siècle, que ce soit les protestants ou les jésuites s'emparent de la figure de Machiavel pour la diaboliser, en quelque sorte. Et machiavélique, on trouve chez certains auteurs, comme Honoré d'Urfé, le verbe machiavéliser. Et à d'autres époques, on reprendra ces expressions, et j'ai fait dans le livre cette remarque que nombreux sont les hommes illustres qui ont donné lieu à un adjectif.
Oui, Shakespeare,
Shakespearien, dantesque, oui. Balzacien, moliéresque, racinien, mais ce sont des références littéraires. Tandis que Machiavel est machiavélique, machiavélien, mais surtout machiavélique, a une connotation péjorative.
Très péjorative,
encore maintenant.
Oui.
Et j'en parlais avec un de mes amis au moment où j'écrivais le livre, je lui dis, c'est le seul cas. Et cet ami, réfléchissant, m'a dit, non, il y en a un autre, c'est sadique.
Oui, c'est vrai, vous le rajoutez en effet.
Je l'ai effectivement rajouté. Le rapprochement n'est pas sans saveur, si j'ose dire. Mais c'est très frappant de voir que la postérité de Machiavel est une postérité polémique, mais constante.
Tout le monde s'en est emparé. En fait,
absolument.
Tout le monde a fait référence à lui.
Et je rappelle, par exemple, qu'un homme comme François Mauriac, mais c'était également le cas de Bernanos, faisait du fascisme et du nazisme des descendants directs de la pensée de Machiavel et le rejetaient complètement et même avec violence. D'ailleurs, Mussolini a préfacé le
voilà, plan. On l'a offert à Hitler.
Et envoyé
voilà.
à Hitler cet exemplaire du prince qu'il avait préfacé. C'est dire qu'à notre époque, en tout cas au XXe siècle, Machiavel était encore un diable.
Oui, certainement, il a été considéré comme tel. Mais alors, est-ce que aujourd'hui, vous allez utiliser le mot plutôt machiavélien ou machiavélique pour jeter un regard sur la manière ? Parce que il y a une nuance.
Voilà, il y a une nuance très, très réelle. D'ailleurs, elle n'est pas seulement dans le langage. Elle est dans la pensée de Machiavel. Il y a deux versants de la pensée de Machiavel. Je dirais un versant utilitaire, qui est cet art dont je parlais tout à l'heure, de conquérir le pouvoir par tout moyen, de le conserver par tout moyen, et de l'exercer comme on peut, dans le sens du bien, si c'est possible, dans le sens du mal, si on ne peut pas faire autrement. C'est le cynisme à l'état pur. Et à cette pratique, à cette attitude, s'applique incontestablement l'expression machiavélique. Il y a un autre sens, et je reviens à ces discours sur la première décade de Tite-Live, où Machiavel, précisément, essaye d'énoncer un art de gouverner. Et il fait preuve, à cet égard, de beaucoup plus de retenue à le sens du bien commun, de l'autorité légitime de l'État, et à un développement qui, pour moi, est peut-être l'aspect le plus important de sa pensée. Il faut savoir que jusqu'à lui, et notamment compte tenu de l'influence du sacré et de la religion sur le pouvoir, on considérait que l'homme avait une marge d'initiative ou de manœuvre extrêmement limitée, que tout était gouverné par la fatalité ou par la providence. Et Machiavel s'insurge contre cette idée. Et dans les discours sur Tite-Live, il dit « J'affirme que la moitié au moins de nos actions peuvent échapper à la fatalité et relever de notre liberté, de notre énergie, de notre volonté,
notre
ce qu'il appelle la virtu.
La virtu.
Qui n'est
donc
pas la vertu, au
mais
sens moral
l'énergie,
du mot,
le courage.
L'énergie, la condensation d'énergie.
Fait partie de l'ambition politique. Enfin,
exactement, mais surtout la recherche du bien commun. Et avec une vision extrêmement réaliste des tensions de la société, Machiavel, dans sa réflexion sur le pouvoir, considère que on ne peut pas éviter qu'une société connaisse des tensions, mais que le bon usage de ces tensions doit conduire à la recherche du bien commun et être polarisé en quelque sorte par la volonté, par l'énergie, dans la recherche de solutions conformes à l'intérêt général. C'est donc une pensée extraordinairement moderne, beaucoup moins cynique et beaucoup moins utilitaire que ce qu'une simple lecture du Prince laisserait entendre, mais qui a connu des expressions ou des illustrations, y compris à notre époque, et nous aurons sans doute l'occasion d'en reparler, on peut qualifier à cet égard de machiavélienne, et peut-être de machiavélique, mais en tout cas de machiavélienne, un certain nombre d'approches des problèmes politiques.
Alors Jacques Rigaud, il y a donc une actualité permanente de la pensée de Machiavel et de ses analyses et peut-être même de ses conseils, et pourtant on se sent à une époque très différente de la Florence du XVIe siècle. Il y a tout de même beaucoup de choses qui ont changé, vous le signalez dans votre livre, notamment la démocratie. Nous ne sommes plus dans des petits États de la même façon qu'à Florence. La communication aussi a changé. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est et qu'il y a une permanence, justement ? Quels sont les fondements de la pensée qui font sa permanence ?
Ce que vous venez de dire est exactement au cœur de ma réflexion. Ce que j'ai compris à travers mon expérience de près d'un demi-siècle de fréquentation de la politique et de fréquentation de Machiavel aussi, c'est qu'il y a des invariants de la politique et qu'il y a, compte tenu de la nature de l'homme, un certain nombre de données ou de règles d'action qui valent sous tous les régimes et à toutes les époques. Dans un de mes livres, qui ne figure pas parmi ceux que vous avez cités, parce que ce n'est pas du tout un livre sur la culture ou sur la politique, mais j'ai fait un peu le même exercice avec Montaigne. Et je me rends compte combien les grands classiques, dans tous les domaines, peuvent parler à toutes les époques.
Et le cardinal de Retz, que vous citez aussi beaucoup dans votre livre.
Mais j'ai été frappé dans un de mes livres qui s'appelle « Vivre à propos », qui est une expression d'ailleurs tirée des essais de Montaigne, du fait que Montaigne parle à notre temps, même s'il est pleinement enraciné dans le XVIe siècle. Il en va de même pour Machiavel. Il y a un certain nombre d'éléments de la politique, de l'exercice du pouvoir, qui transcendent les différences de régime et les différences d'époque. Et la démocratie telle que nous la vivons induit une certaine hypocrisie. Je veux dire par là que dans un pays comme la France ou d'autres pays de démocratie dite libérale ou représentative, il y a un certain nombre de règles concernant la dévolution du pouvoir et son exercice, qui sont généralement observés. Nous avons par exemple une élection présidentielle dans quelques semaines. Je vous garantis que cette élection sera d'une totale transparence et d'une parfaite conformité au droit. Il y aura peut-être ici ou là un bourrage d'urnes au fond d'un village, d'une île ou du...
Non, mais c'est très surveillé.
C'est extraordinairement surveillé.
Donc c'est très conforme.
L'égalité entre les candidats est respectée. Donc ça va fonctionner de manière irréprochable. Sauf que pour la désignation des candidats, pour savoir qui est candidat et qui ne l'est pas, même si, et il faut rendre hommage au Parti socialiste pour avoir inventé une procédure parfaitement démocratique et transparente, puisqu'on a vu les principaux candidats s'exprimer en public et devant nous tous à la télévision, il y a eu un choix qui a été fait par les militants, donc c'est tout à fait exemplaire. Mais dans d'autres cas, les manœuvres, les coups bas, les médisances, et d'ailleurs même maintenant dans la campagne électorale, nous savons qu'il y a des rumeurs qui peuvent courir sur tel ou tel uniquement pour leur nuire. Donc c'est la zone grise de la politique qui ne relève pas de l'état de droit dans lequel nous vivons, mais qui existe partout. Regardez aux États-Unis, les écoutes que Nixon a pratiquées et qui l'ont conduit un jour à démissionner dans tous les pays. Regardez par exemple cette histoire des armes de destruction massive qui ont été prêtées, si j'ose dire, ou dont on a imputé la possession à l'Irak, alors que nous savons maintenant que c'est une pure et simple invention. Et qu'entre le pouvoir politique et les services secrets américains, il s'est passé des choses que Machiavel n'aurait pas reniées, puisqu'on a inventé des choses qui n'existaient pas, mais qui étaient la seule justification de la guerre. Donc on finirait par penser, si on lisait les bons auteurs, que la démocratie est un régime vertueux, exemplaire, quasiment paradisiaque, alors que la politique a nécessairement sa part d'ombre.
Et sa loi de la jungle, en fait. Il y a les lois d'un côté, mais il y a la loi de la jungle qui reste néanmoins.
Exactement. Et le régime, encore une fois, le plus pur, le plus irréprochable, a nécessairement sa part d'ombre. Et je dis qu'il n'y a pas d'innocence du pouvoir, et qu'on ne fait pas plus de bonne politique que de bonne littérature avec des bons sentiments.
Alors, vous dites quand même que la politique, et vous le démontrez dans votre livre, Le Prince au miroir des médias, que la politique, c'est une passion, c'est-à-dire c'est une passion dévorante, qui dévore l'individu, enfin qui le mène en tout cas, mais finalement, ça finit aussi par être un enfer. C'est un univers impitoyable, pour reprendre une expression connue.
Absolument, n'est-ce pas ? Chacun de nous, l'homme de la rue, qui voit à la télévision, dans la presse, les hommes politiques s'exprimer, vivre, se manifester, peuvent se faire de la politique une idée non pas idéale, mais enfin, quel beau métier, on est exposé au feu des médias, on vit dans les palais nationaux, on a une rémunération, oui, etc. Bon, ça c'est le côté prestigieux ou doré de la politique. Quand on la connaît de l'intérieur,
c'est beaucoup plus dur.
On sait d'abord qu'on se remet en cause tous les 3 ans, les 4 ans, les 5 ans. Enfin, on a des mandats. Personne n'est jamais assuré de son élection. Et donc, une action à long terme est extraordinairement difficile. La carrière politique a ses servitudes.
La solitude aussi,
vous dites.
La
solitude du pouvoir, qui est très grande.
Qui est réelle.
Surtout au sommet. Et quand on sait ce à quoi un homme politique est astreint pour se faire élire et pour conserver la confiance de ses électeurs, je n'ai jamais été un élu, sauf dans un village et au conseil municipal, mais c'était une toute petite charge. Mais j'ai vécu auprès de ministres ou d'hommes politiques. On ne s'appartient plus. Vous êtes politique tout au long de la semaine, de l'année.
Il n'y a pas de répit.
Il n'y a pas de vie de famille ou très peu, etc. Vous devez voir des gens que vous ne fréquenteriez absolument pas si vous étiez complètement libre, etc. Vous êtes obligé de vous charger de milliers de choses. Et si actuellement, compte tenu des moyens de communication modernes, la vie est évidemment beaucoup plus facile. Moi, j'ai des souvenirs. Je prends souvent l'exemple de Joseph Fontanet, que j'ai bien connu. Il était député de la Savoie. Tous les vendredis soirs, au plus tard, il partait pour Chambéry. Il prenait le train de nuit. Et il m'expliquait,
avec des astreintes très fortes.
J'arrive à Chambéry à 5 heures du matin le samedi. Qu'est-ce que vous voulez faire à Chambéry à 5 heures du matin ? Je ne vais pas aller à l'hôtel me coucher, j'allais au marché. Et il passait 2 heures au marché d'intérêt national de Chambéry. Il y passait son week-end et il rentrait le lundi à Paris. Et moi, je me souviens avoir fait la campagne électorale de Jean-François Poncet en Lot-et-Garonne. Je logeais chez lui, j'étais réveillé le matin à 7 heures par une conversation qu'il tenait avec un producteur de pruneaux qui avait frappé à sa porte à 7 heures du matin. Donc ce sont des contraintes tout à fait remarquables. Et elles ne sont supportables que si on a véritablement le goût du pouvoir.
La passion
du pouvoir.
Voilà.
Alors on peut faire de la politique, je dirais, non pas de manière marginale, mais comme un notable qui veut ajouter à ses expériences celle d'un mandat de sénateur, etc. Mais quand vous aspirez vraiment au pouvoir, comme a pu le faire un jeune Chirac, par exemple, ça veut dire que pendant des années, vous allez labourer votre terrain et vous soumettre à des quantités de contraintes.
Jacques Rigaud, avant de marquer une courte pause, on va essayer de résumer, au fond, les mots-clés de la pensée de Machiavel par rapport à la politique. Il veut un État fort. Il pense qu'il n'y a pas de fatalisme et qu'une partie de la gestion des affaires dépend véritablement de notre énergie, de notre virtu, comme il dit, en effet, et pas uniquement de la fatalité. Est-ce que c'est bien le résumé de sa pensée ?
Tout à fait. Et ça dépend de notre énergie, du courage et de l'intelligence, des idées et de la manière d'agir sur la société. Et là, Machiavel, à la fois, ne répudie pas le mensonge, qui peut être parfois nécessaire, mais en même temps, en dit beaucoup sur l'art de plaire, de séduire le peuple, de le convaincre, et en tout cas de le séduire.
On marque une courte pause et on retrouve notre invité Jacques Rigaud dans un petit instant.
L'histoire des hommes, l'histoire des sociétés, l'histoire des mentalités, l'histoire des lieux, l'histoire des événements. C'est Un jour dans l'histoire, en direct ou en médiathèque, sur Canal Académie.
Retour avec notre invité Jacques Rigaud qui vient de publier Le Prince au miroir des médias, Machiavel, aux éditions Arléa. Alors Monsieur Rigaud, on ne va pas se priver d'une petite galerie de portraits pour savoir lesquels sont machiavéliens ou plus ou moins machiavéliques. Alors De Gaulle par exemple, vous ne le trouviez pas tellement machiavélique, mais plutôt machiavélien parce que vous dites qu'il avait une grande mystique de l'État.
Oui, tout à fait. Le général de Gaulle partait de l'idée qu'on ne peut faire de grandes choses pour un pays qu'à partir du moment où il y a un État fort, bien constitué et bien organisé. Et à cet égard, alors, sur le plan philosophique, il est très proche de Machiavel, pour qui c'est le point de départ. Et quelle que soit l'importance de l'État, quand Machiavel pense à l'État, il pense à l'État qu'était Florence, la ville et la province de Florence, mais il pensait aussi au royaume de France, qu'il admirait beaucoup, et qui, à l'époque du temps de Louis XII, avait conquis une bonne partie de l'Italie. Mais la force de l'État, sa bonne organisation, était pour lui indispensable. Et d'ailleurs, le général de Gaulle, quand il revient au pouvoir en 1958, sa première préoccupation, avant tout autre, c'est de restaurer l'État et l'autorité de l'État avec une nouvelle constitution qui, même s'il a été à plusieurs reprises modifié, 50 ans après, règne encore sur notre pays. Donc le pouvoir, l'organisation du pouvoir est pour lui essentielle. Mais le général de Gaulle a suivi les leçons de Machiavel sur d'autres plans. Et fait de lui, de son comportement, quelque chose de machiavélien, mais à la limite de machiavélique.
Il a utilisé tout de même...
Prenons l'affaire d'Algérie. Le général de Gaulle, je le dis pour les plus jeunes de vos auditeurs, n'arrive au pouvoir que parce qu'il y a l'affaire d'Algérie et que parce que ceux qu'on appelle les pieds noirs, les partisans de l'Algérie française et l'armée avec eux, répudient ou contestent l'autorité des gouvernements de la 4e République. Et il est appelé pour faire l'Algérie française. Et d'ailleurs, son premier mot, quand il se trouve à Alger, devant le forum et devant la foule immense qui est assemblée, c'est avec une grande ambiguïté « Je vous ai compris ».
Et pendant ce temps-là...
Et il dira une seule fois à Mostaganem, quelques jours plus tard, « Vive l'Algérie française », il n'emploiera pas le mot. Je pense que le général de Gaulle, s'il avait estimé possible de lier définitivement l'Algérie à la République française, l'aurait certainement fait avec bonheur. Mais avec son intelligence et son sens de l'histoire, il a dû se rendre compte très vite que... la revendication de l'indépendance de l'Algérie était inévitable. D'ailleurs, au bout de quelques mois, et dans la Constitution même, il a ouvert pour les colonies, l'Empire français, ce qu'on appelait la France d'outre-mer, la possibilité de l'indépendance qui a été très vite saisie. Pour l'Algérie, c'était plus compliqué. Il y avait l'armée, il y avait le parti gaulliste qui s'est formé, dont l'un des principaux leaders n'était autre que Michel Debré, partisan affiché de l'Algérie française. Donc le général de Gaulle a dû, pendant 2 ans, ruser, mentir ou dissimuler.
Donc être machiavélique au sens péjoratif du mot.
Au sens péjoratif ou au sens critique,
au sens courant du mot.
Il a été machiavélique, admirablement d'ailleurs, car c'était extraordinairement difficile. Et ça s'est terminé non sans drame. Non seulement la journée du barricade, mais les conditions dans lesquelles nos compatriotes ont dû quitter le territoire. Et aussi le problème très douloureux des harkis, que nous avons compromis en quelque sorte, et pour beaucoup d'entre eux, abandonnés. On pense maintenant aux harkis et aux fils d'harkis qui sont en France. On finit par oublier tous ceux qui ont été laissés à leur triste sort et qui ont été exécutés par les partisans de l'indépendance. Donc le général de Gaulle, sur ce sujet, a été incontestablement machiavélique. Il l'a été aussi dans d'autres domaines, en ce qui concerne notamment la construction européenne et d'autres aspects. Mais il l'était avec cette souveraine aisance, ce style qu'était le sien.
Alors le plus machiavélique de tous, en tout cas vous lui consacrez un assez long passage et une étude approfondie dans votre livre, c'est Mitterrand.
Absolument. D'ailleurs, François Mauriac, qui connaissait bien Machiavel, n'appelait jamais Mitterrand autrement que le Florentin. Et c'était signé. Bon. François Mitterrand a été, je dirais, ouvertement machiavélique. Il n'était pas ouvertement puisqu'il affichait une attitude tout à fait différente. Mais quand on analyse avec le recul son parcours politique, venu de la droite et finissant par conquérir le pouvoir suprême à gauche, avec l'idée, maintenant on en a la preuve, de tuer le Parti communiste, de l'étouffer.
Oui.
Et imaginez qu'il ait été élu en 1974, où il était candidat, c'est Giscard qui a été élu, ça aurait été beaucoup plus difficile, car le Parti communiste, à l'époque, était encore très fort. Alors qu'en 1981, le rapport de force était modifié, et François Mitterrand a pu pratiquement tenir son pari, en ce sens qu'il a évidemment accueilli à bras ouverts des ministres communistes, mais il n'en a fait
pour mieux les étouffer
qu'à sa tête. D'ailleurs, les ministres communistes sont partis au bout de quelques années. Le Parti communiste n'a cessé depuis de décliner comme on le voit maintenant. Donc, François Mitterrand, non seulement dans sa conquête du pouvoir, mais dans son exercice, dans cet art de séduire, de tenir souvent un double langage, avec un énorme talent. On l'a appelé le prince de l'ambiguïté. Et Dieu sait que sur beaucoup de points, il a été très ambigu. Cet art de séduire, cet art de plaire, qu'il a d'ailleurs considérablement travaillé. Quand on se souvient des premières interventions de François Mitterrand à la télévision, autant il était un très bon orateur parlementaire. À la tribune de l'Assemblée, il était capable de faire un discours sans notes et de très haut niveau. Dans les meetings populaires, c'était beaucoup moins bon. Il est devenu un très grand orateur
populaire.
Il a appris. Donc, il est en effet un des plus machiavéliques de nos hommes politiques.
Alors, Jacques Rigaud, on ne peut pas les passer tous en revue, c'est bien dommage. Mais il y a tout de même un homme qui, à vos yeux, n'est pas du tout alors machiavélique. Et ici, nous l'aimons beaucoup, puisqu'il appartient à l'Académie des sciences morales et politiques. C'est le Premier ministre Raymond Barre. Ah. Lui, vous trouvez qu'il n'est pas du tout machiavélique, ni machiavélien, d'ailleurs.
Moi, il se trouve que j'ai la chance et l'honneur de bien connaître Raymond Barre. Et j'ai pour lui à la fois beaucoup d'affection et d'admiration.
Alors, pourquoi n'est-il pas de la pensée de Machiavel ?
D'abord parce que Raymond Barre s'est trouvé dans la politique par accident.
Il n'a pas eu l'ambition.
Il n'a pas eu d'ambition politique. Il peut vivre en dehors de la politique. Il le montre brillamment d'ailleurs depuis quelques années. Certes, il a été élu député du Rhône. Il a fait un mandat de maire de Lyon. Mais il y a pour Raymond Barre une vie ailleurs que dans la politique. Deuxièmement, Raymond Barre est un homme moralement d'une intransigeance, d'une droiture, d'une probité, qui sont absolument exemplaires. On n'imagine pas Raymond Barre mêlé en quoi que ce soit à des affaires comme on en a tellement connu sous la 4e et sous la 5e République.
Ni tenir un double langage, d'ailleurs.
Absolument. Et d'ailleurs, il a fait de sa silhouette, il a donné à sa silhouette politique l'image même de la franchise. Souvenez-vous, d'ailleurs, il l'a rappelé dans son dernier livre d'entretien avec Botterel, le scandale qu'a produit sa phrase à propos des chômeurs. Ils n'ont qu'à créer leur entreprise. Bon, ça a fait scandale. Alors qu'on voit dans les faits qu'un certain nombre de chômeurs ont créé une entreprise. Donc, il avait, il portait la rigueur morale jusqu'à refuser toute compromission. Ajoutez à cela qu'il avait la totale confiance d'un président de la République, qui était M. Giscard d'Estaing, avec qui il a eu, même s'il n'était pas toujours d'accord sur tous les points, mais la loyauté de l'un par rapport à l'autre et de l'autre par rapport à l'un a été vraiment exemplaire. Et Valéry Giscard d'Estaing, non seulement a supporté, mais a admis, c'est tout à son honneur, cette franchise et cette rudesse même de Raymond Barre. Giscard était lui-même capable intellectuellement de machiavélisme, mais je dirais, pour atténuer ce que pourrait avoir de trop laudatif cette réflexion, que l'idée qu'il se fait de lui-même dans un narcissisme exacerbé faisait que le machiavélisme lui paraissait sans doute indigne d'une personnalité aussi fréquentable que lui.
Jacques Rigaud, évidemment, vous citez Machiavel qui a cette phrase « Pour parvenir au pouvoir et s'y maintenir, il faut communiquer ». On croirait vraiment un langage d'aujourd'hui, en effet. Comment jugez-vous le débat public en France en ce moment ? En ce moment qui est un moment de période préélectorale présidentielle.
Écoutez, je suis partagé. Parce qu'à certains égards, pour faire simple, je suis heureux de la force, de l'intensité du débat public. Nous sommes en mars, à moins de 2 mois d'élection présidentielle. Je ne dis pas qu'on ne parle que de ça, mais on en parle beaucoup. Les taux d'écoute des émissions de radio et plus encore de télévision sur la campagne sont extraordinairement élevés. La campagne électorale présidentielle est au cœur du débat public incontestablement. Et nous avons des candidats qui, au moins pour certains d'entre eux, et pour les plus importants d'entre eux, je ne parle pas de M. Le Pen ou Mme Buffet ou de Mme Laguiller ou de M. Besancenot qu'on a déjà vu souvent, mais nous avons des gens qui émergent au niveau de la candidature. C'est le cas de Mme Royal, c'est le cas de M. Sarkozy. M. Bayrou s'est déjà présenté, mais il apparaît quand même à beaucoup d'égards comme un homme neuf. Et le langage tenu par ces quinquagénaires, par rapport à ce qu'on a entendu pendant des années et des années, sonne un son un peu neuf. Donc à cet égard, on peut se féliciter. Et d'autre part, par rapport à ce qu'on a pu connaître à d'autres époques, la manière dont les principaux candidats sont devenus candidats, la transparence, les débats internes à l'intérieur des partis, tout ça est bon. Ce qui est plus préoccupant, c'est d'abord le niveau de la campagne.
Vous dites qu'il n'y a plus de débat de fond, néanmoins.
Il n'y a plus de débat de fond. Quand je vois la place que prend la démocratie participative, ces émissions de télévision que tout le monde a vues avec les principaux candidats, mais même les moins importants, puisqu'ils y ont eu leur part, où on a vraiment l'impression que les problèmes personnels, si respectables et réels qu'ils soient, des handicapés, des chômeurs, des retraités, etc., l'emporte sur tout le reste.
Justement, sur la notion de l'État, des droits, devoirs.
Il suffit d'imaginer, prenez n'importe quelle de ces émissions, n'importe quelle de ces questions, et essayez d'imaginer le général de Gaulle, ou Georges Pompidou, ou même François Mitterrand, en train de répondre à une question sur l'augmentation de 20% de l'allocation X pour les handicapés.
On n'aurait pas osé poser la question.
Le lendemain de mon élection, je fais ceci.
On n'aurait même pas osé.
Et cette manière quasiment systématique, disons, comme vous avez raison. Et là, les médias ont une forte responsabilité car ils nous éloignent du véritable enjeu d'une élection présidentielle. Le problème du choix que nous allons tous avoir à faire à la fin du mois d'avril n'est pas de savoir qui est le plus sympathique, le plus compassionnel, celui qui exprime le mieux nos rêves, nos craintes, nos inquiétudes, nos angoisses. La question qui nous est posée, qui vous est posée, comme à moi, c'est quel est, à nos yeux, l'homme ou la femme le plus capable d'appuyer sur le bouton de la force de frappe, de prendre des décisions graves en ce qui concerne une amnistie, en ce qui concerne la nomination de très hauts responsables, en ce qui concerne notre politique économique, notre action internationale, etc.
Toute question dont on n'entend pas beaucoup parler, exactement. En effet. Vous trouvez le débat public donc assez pauvre, et je trouve qu'à l'antenne, ici, à Canal Académie, vous tenez des propos plus doux que ceux qui sont dans votre livre, parce que dans votre livre, on voit que la politique est devenue un cirque, un combat de gladiateurs, un spectacle, un jeu de rôle. Bref, vos mots sont très durs.
Je crois même dire dans le livre un spectacle de marionnettes.
Oui, vous employez le mot marionnette. Absolument. Et vous en concluez même qu'on vit à une époque d'imposture. Alors je trouve que là, vos propos sont plus forts que ce que vous
C'est
nous dites.
C'est sans doute l'ambiance sirénique de Canal Académie qui me conduit à être plus modéré. Mais c'est vrai que j'ai parfois un sentiment de colère devant le travestissement du débat politique dans le jeu médiatique.
Et vous dites même que la scène médiatique a supplanté la scène parlementaire, ce qui voudrait dire qu'il y a un affaiblissement de la démocratie, du fonctionnement démocratique.
Mais c'est sûr. Et d'ailleurs, on l'observe depuis assez longtemps. Et j'irai même plus loin. Moi, je suis frappé et assez choqué de la tyrannie du très court terme, l'effet d'annonce. On a vraiment l'impression que certaines décisions politiques doivent être interprétées en fonction du journal de 20 heures du soir même, et que certaines décisions ne sont pas du tout prises pour être appliquées, mais simplement pour faire parler.
Alors, c'est une bien triste constatation et on ne peut que conseiller, tout de même pour se remonter un peu le moral, de lire l'ouvrage de Jacques Rigaud, Le Prince au miroir des médias, Machiavel, 1513-2007. Autant dire que Machiavel est toujours d'actualité dans sa pensée, dans sa conception de l'État. Ce livre est publié aux éditions Arléa et sur notre site internet, vous trouverez toutes les références des ouvrages de Jacques Rigaud. Merci Jacques Rigaud.
C'est moi qui vous remercie, madame.